Ah, qu'on a du plaisir à faire l'émission. On en jase, je le dirai jamais assez. 13h40, météo, je vous le rappelle, moins 8, moins 12 degrés que le facteur éolien présentement. Moins 8 demain, possibilité d'averse de neige à 30% et de la neige. Et moins 2 degrés jeudi. Pascal, on en parlait hier, l'école Bedford. C'est pas hier, c'est vendredi que tu nous as amené Sylvain Duclos.
Oui.
On a parlé de cette enquête-là qui finissait pas d'aboutir sur les enseignants de l'école Bedford. Rappelle-nous un peu les faits, là. Ces enseignants-là, ils enseignaient pas de sexualité, ils enseignaient à religion, ils enseignaient pas de science, ils empêchaient les petites filles de jouer au soccer. Bref, c'est épouvantable ce qui s'est passé là-bas.
Finalement, c'est qu'on allait dans un enseignement qui était pas du tout adapté à des jeunes Québécois et certainement, on y allait avec notre façon de voir les choses et donc la vie et donc la religion et donc notre culture. Et ça déboutait en climat toxique à l'école Bedford où finalement, personne n'a pris ça entre les mains.
Un groupe de 11 enseignants qui avaient main mise sur le reste de la communauté enseignante.
C'était eux c'était eux qui géraient l'école finalement parce que même les centres de services scolaires s'en mêlaient pas.
Non. Puis il y a eu un passage de 5-6 directrices différentes.
Exactement. Puis il y avait 3 objectifs distincts et importants qu'on voulait remettre au sein de l'établissement, rétablir un milieu d'apprentissage sain et sécuritaire, assurer de la compétence aussi au niveau de l'enseignement des enseignants, puis régler les problèmes d'ingérence de personnel enseignant dans la gestion de l'école. Puis pour faire ça, avec l'enquête, il y avait des enseignants qui risquaient de perdre le brevet d'enseignement. Mais dans toute cette conversation-là, on se posait la question, OK, parfait, mais même s'ils perdent leur brevet d'enseignement, ils vont pouvoir réenseigner à quelque part après parce qu'il y a une pénurie d'enseignants.
Exactement, c'était la grande question. Et on va rejoindre au bout du fil Marc Ranger, qui est ex-directeur Québec pour le syndicat canadien de la fonction publique. Et maintenant, il travaille pour Ryan Affaires publiques. Marc Ranger, comment vas-tu?
Salut à vous, ça va très bien.
Marc, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que ces 11 enseignants-là, présentement, qui sont encore sous enquête, mais Sonia Lebel, sur les ondes de Cube Radio du 99.5 Montréal, a dit il y en a déjà qu'on a décidé de perdre faire perdre leur brevet, sont allés frapper à la porte du syndicat, toc, 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 Association des professeurs de Montréal. Et là, c'est pas mon grand étonnement parce que je sais comment le syndicat fonctionne, même si ça me frustre énormément. Le syndicat dit, ben oui, on va vous accompagner dans votre démarche pour vous défendre face au méchant gouvernement qui veut vous enlever votre brevet.
Oui. Ben, j'ai lu le rapport d'enquête là à quelques reprises. Là. C'est quand même un rapport d'enquête volumineux, celui qui avait été fait à la demande du ministre de l'époque. Puis, je dirais que il y a plusieurs situations très, très problématiques sur une très longue période de temps. Fait que ça, c'est très problématique. Mais tu vois, je vois un des passages que j'ai sous les yeux encore que dit... le rapport fait quand même des nuances. Pas tout le monde qui est sur le même pied d'égalité. Fait que d'entendre le syndicat, moi, 2 choses. Là. Ça m'a surpris que le syndicat attaque le processus puis dise qu'il est vicié. Il aurait dû se garder une petite gêne puis un devoir de réserve parce qu'il y a eu quand même, sur plusieurs années, puis ce rapport-là, entre autres, un des rapports, là, de juin 2024, lui, fait état de, ils ont rencontré 70 personnes, une centaine d'heures de rencontres. C'est un rapport qui est très, très bien fait. Ensuite, il y a eu des enquêtes. Fait que bref, t'attaques pas le processus. Il aurait dû se garder une gêne. Maintenant, de dire qu'ils vont défendre, j'imagine le syndicat, sa job, c'est de faire des enquêtes, lui aussi, de son côté, pour voir. Parce qu'il y a certaines fautes même qui sont levées dans le rapport qui sont pas considérées comme étant majeures ou comme étant... Donc, tu peux pas mettre tout le monde sur le même pied. Il doit y avoir une appréciation. Parce que la révocation, la ministre d'ailleurs, c'était si évident que ça, elle aurait déjà révoqué l'ensemble des brevets d'enseignement. Là, elle a commencé par certains cas.
Oui, en effet, on y va du cas par cas, là.
Pardon?
On y va au cas par cas. Là. Puis on comprend qu'il y en a que l'issue est scellée, mais il y en a qui sont encore sous enquête.
Oui. Puis, tu sais, veut pas, là, justement l'appréciation de la faute, parce que j'ai vu que dans l'enquête qui avait été faite, la direction de l'école, des dossiers n'étaient pas documentés depuis longtemps. Fait qu'il y a un principe qui existe à un moment donné, la gradation des sanctions, quand c'est pas des fautes qui sont graves, évidemment, qui doit être appréciée. Fait que là, c'est normal un peu que ce soit soumis au tribunal administratif du Québec, là, parce que, tu sais, on n'est pas au Moyen-Âge où on se dit, hey, on a lu le rapport, puis les 11, là, bonjour, merci, on fera pas de distinction. Il faut qu'il y ait ce processus-là qui se passe. Mais là, c'est au syndicat. Est-ce qu'il y a des cas qui, pour eux, dans l'évaluation, comme moi j'ai fait toute ma carrière, quand on juge qu'une faute est grave puis que les chances de passer à travers sont pas là, ils ont le droit de dire « je ne représenterai pas cette personne-là ». Ils n'ont pas fait cette nuance-là dans les derniers jours.
C'était ma question, M. Rangier.
Ouais.
J'allais dire, à un moment donné, là, il n'y a pas quelque chose qui peut être analysé puis de se dire ben ce serait ridicule de défendre ça. T'sais, à un moment donné, il n'y a pas une limitation dans le fait d'être syndiqué et d'être un syndicat.
Oui, et c'est pour ça qu'ils doivent l'apprécier au cas par cas. Parce que je rappelle, là, je l'ai encore sous les yeux, l'article 47.2, 47.3 du Code impose l'obligation de représentation. En contrepartie, s'ils ne le font pas, ben la personne qui est fautive va les poursuivre, puis j'ai vu combien de cas où le tribunal administratif du travail condamne le syndicat à dire non seulement vous allez la représenter, mais la personne va choisir son avocat et vous payez 100 % des frais. Et ça, dans ce temps-là, c'est qui paye? C'est les membres aussi. Fait que les syndicats, ce qu'ils font souvent, ils évaluent les chances, puis ils se disent, bien, tant qu'à être poursuivi, si j'y vais pas, bien, je vais faire une représentation minimale, je vais respecter mes obligations. Dans certains cas, comme moi, je l'ai fait toute ma carrière, j'ai décidé de pas y aller du tout, puis de dire aux gens, bonne chance, poursuivez-nous. Mais c'est une appréciation, parce qu'en bout de ligne, je répète, chaque cas est différent. J'ai sous les yeux une décision là qui a été rendue par le tribunal administratif du Québec tout récemment en novembre sur un professeur dont le ministère de l'Éducation avait révoqué son brevet. Bien, le tribunal a modifié ça en suspension, révocation de 9 mois au lieu de permanente, parce qu'il a jugé qu'il y avait des facteurs atténuants, que la faute n'était pas grave au point de justifier la révocation permanente. Bref, ces gens-là, certains cas, certainement que la révocation permanente va être maintenue. J'ai pas fait d'enquête, là, mais je dis ça comme ça. Mais il y en a d'autres où, possiblement même, parce que vous savez, dans un contexte de clan dominant, il y a des gens qui ont pu jouer des rôles ou ont eu des fautes accessoires. Moi, ce que je considère qui est plus grave quand on voit dans le rapport, c'est par exemple de ne pas donner accès à la classe, hausser le ton, pas donner accès à la classe aux intervenants professionnels pour venir aider des jeunes. Pour moi, là, ça, puis mettre dans la fenêtre, déjà, ça devrait être un signal. Là. Quand tu mets dans la fenêtre là, un carton pour pas que le monde voit dans ta classe, il y a un méchant problème. Là. L'école doit être un milieu ouvert, les jeunes doivent être protégés en tout temps.
À quoi ça sert un centre de service? À quoi ça sert? T'sais, on devrait même pas se rendre au syndicat.
Ben non,
à ce
mais c'est sûr qu'il y a eu du laxisme aussi en termes de centre de service et de direction. Ça marque, il n'y a pas de doute là-dessus.
Il n'y a pas de doute. Mais je vous dirais là que les professeurs, Montréal, c'est là où il y a le plus grand nombre de classes d'intégration. Mm-hmm. Il y a des défis incroyables dans les classes. Et souvent, comme on l'a vu à Bedford d'ailleurs, quand certains ont voulu soulever des questionnements, il y a eu des allégations de racisme. Fait que les gens marchent sur la pointe des pieds, ont peur de dénoncer, ça crée des climats épouvantables. Mais vous savez quoi? Moins on intervient rapidement, plus ça dégénère. Alors ça,
en effet.
L'école Bedford devrait servir de leçon à travers le Québec. S'il y a un problème, intervenez. Et pas juste les directions d'école. Le syndicat aussi a le devoir d'intervenir et de supporter 100 % de ses membres dans un contexte. S'il y a des gens qui sont fautifs, il faut intervenir.
Marc Rangé, tu es notre spécialiste des relations syndicales ici même à Boulevard 101. Merci beaucoup de nous avoir éclairé encore une fois. On va suivre ce dossier-là de très près et on te reparle assurément.
Ça passe toujours trop vite.
Salut Marc, on t'adore. Marc Rangé, une personne avec qui j'aime jaser. Tu sais, la fin de semaine, je texte Marc Rangé des fois pour dire « Hey, dis-moi là, t'en penses quoi de cette affaire-là syndicale? » Puis là, quand il me dit « Syndicat d'un patate », je me dis « OK, c'est beau, je peux le dire en nombre. »
Eh bien, je suis pour dire que ça passe trop vite un moment où on parle de syndicat.
Exactement. Tu sais quoi? Il va y avoir tellement de pression sur le syndicat qu'ils n'auront pas le choix de jouer au cas par cas. Ils n'ont pas pour les 11 parce que je te fais entendre Tania Lompré, justement, enseignante à Montréal, ce qu'elle avait à dire sur son syndicat ce matin.
Je considère qu'on doit avoir, oui, un syndicat qui protège les membres, mais qui protège aussi notre travail, la confiance que le public a envers les institutions, envers les enseignants et le service qu'on donne aux élèves. Donc, je crois que c'est primordial vraiment de se dire que oui, on ne défend pas l'indéfendable, mais ce qui m'a le plus dérangé en fait dans le communiqué d'hier, moi, c'est qu'on mentionne qu'il y a des enjeux plus graves comme la pénurie de main-d'œuvre ou les compressions budgétaires. Est-ce qu'on doit accepter qu'un enseignant incompétent et inadéquat soit en classe puisqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre? Je comprends pas, en fait, comment on classe les dossiers à l'Alliance.
Moi, je m'excuse, il y avait un petit silage. Là. C'était où Mme Lompré était.
Je fais de la couffine.
Ouais. Mais elle a tellement raison. On ne peut pas défendre l'indéfendable. Et ça, il va y avoir de la pression de mise sur le syndicat. Alors, j'espère qu'on va bouger parce que ça n'aurait pas de sens que les plus grands leaders qui ont imposé ce climat de terreur-là soient représentés par leur syndicat. Parce qu'après tout, là, ceux qui ont été victimes de ces leaders-là, c'est des membres aussi de l'Association des professeurs de Montréal.
Bien, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, moi, mettons, payer un syndicat, là, avec ma paye puis mes sous,
ouais,
qui s'en va défendre ce genre de choses-là. Si je suis enseignante, mes valeurs d'enseignement, ben mes oui, valeurs d'éducation de la population, de ce que je souhaite que la société soit, bien au contraire, ceux qu'on devrait dédommager, ce sont les élèves.
Oui. T'as clairement, t'as entièrement raison à 100%. Pascal Cévé, tu m'as dit hier, « Hey Jeff, reviens-moi donc avec l'argent qui se passe dans le sport universitaire américain. » Il y a un jugement qui est tombé le 7 juin dernier qui fait en sorte que les athlètes sont maintenant payés. Donc, et même la NCAA doit reculer jusqu'en 2016 pour payer ces athlètes-là. C'est une rondelette somme de 2,8 milliards de dollars qui va être distribuée aux athlètes.
Je suis contente de l'apprendre parce que cette réflexion-là vient du dernier match de la NFL que je suis allée. Donc, Bears versus les Steelers. Mm-hmm. Puis je me disais, Colin, que les Américains ont une envie puis un bonheur d'aller au football puis d'aller dans des sports. Puis je sais qu'ils sont beaucoup plus que nous. Mais je me rappelle que les games universitaires que j'ai vus aussi aux États-Unis, c'est la débandade.
100 000 personnes pour le match Ohio State-Michigan ce samedi.
Qui achètent de la merch. Puis je me dis, attends, ces joueurs-là n'étaient pas payés. Mm-hmm. Alors, les universités s'en mettaient plein les poches.
Oui.
Est-ce qu'on redonnait tout ça? Je sais pas. Mais je me dis, hey, ces élèves-là, mm-hmm, peut-être qu'ils auraient été un beau sideline, finalement, de jouer au foot puis d'être payés.
Selon toi, c'est quoi les revenus juste pour le football au niveau du sport américain collégial? Collégial, là, c'est universitaire. Là,
aux États-Unis?
Oui.
Ah, je sais pas, mais écoute, j'ai peur de m'avancer sur des milliards, mais en même temps, je serais même pas surprise.
Oui, ne sois pas surprise parce que c'est 1,5 milliard de dollars en revenus. Alors, t'imagines, on donnait 0 $ aux athlètes étudiants et on se mettait dans les poches 1,5 milliard de dollars. Bon, oui, on leur donnait des bourses d'études, ainsi de suite, là, mais on s'entend, c'était beaucoup moins. Alors, le tribunal, en plus de dire vous allez les payer rétroactivement, maintenant les universités...
Rétroactivement, c'est intéressant.
Oui, jusqu'en 2016. Maintenant, les universités ont une masse salariale. La masse salariale est maximum 20,8 millions de dollars. Et ça inclut l'ensemble de leurs athlètes. Donc, autant la fille qui joue au softball que le gars qui joue au football. Okay. Bon, on comprend que c'est comme l'offre et la demande dans n'importe quel sport. Celle qui joue au softball va gagner moins cher que le corps arrière qui est pour ton université, qui remplit le stade à 100 000 personnes.
On se comprend.
Gavin McKenna, est-ce que ça te dit de quoi, Pascal?
Non,
c'est...
je m'excuse.
Ça, c'est un jeune prodige au niveau du hockey canadien. Lui, il a décidé de faire le saut à 17 ans au hockey universitaire américain au lieu de continuer dans le système canadien. Et sais-tu pourquoi? Il a décidé de faire ça parce qu'il est maintenant le joueur de hockey le mieux payé au niveau universitaire. Il s'aligne avec l'université Penn State et il gagne la rondelette somme de 700 000 $
Je ne sais pas si un jeune peut être... là, c'est sûr qu'il va rester à l'école parce qu'il va gagner de l'argent de cette manière-là. Donc, il va clairement rester à l'école. Mais est-ce que ça peut dissuader un jeune de continuer ses études par la suite?
Ouais,
mettons, selon un certain montant ben de fait... Quand t'es rendu dans un million,
pour te donner,
c'est pas le cas de ces joueurs-là.
Pour te donner une idée, là, quand il va rentrer dans la Ligue nationale, il va gagner 925 000 $ Fait qu'il est à 225 000 $ de son salaire de la Ligue nationale.
D'après moi, son diplôme en loisir, il va le sacrer au bout
pas
de ses
bras. Pas pire, hein? Je te parlais hier de Arch Manning, le neveu d'Eli Manning. Eh bien, Arch Manning, cette année, avec son salaire et les commanditaires, lui, il est commandité par Uber et par Red Bull, va faire 10 millions de $ C'est du jamais vu dans le circuit universitaire.
Parce que c'est ça, t'as le salaire, mais t'as les commandites.
Ben oui, t'as les commandites parce que ça leur a donné le droit. Ça, c'est depuis 2021 qu'ils avaient le droit d'avoir des commandites, mais là, en plus, les universités doivent leur verser un salaire. Mais les plus privilégiés là-dedans, Pascal, c'est les entraîneurs. OK, t'es prête?
Oui.
L'entraîneur Callan DeBoer d'Alabama a signé un contrat de 8 ans, il y a de cela 2 ans. Il gagne 10,25 millions de $ par année.
C'est-tu plus que certains entraîneurs dans la NFL?
Ah, c'est plus que tous les entraîneurs dans la NFL.
Aïe, aïe, aïe. Okay. On parle de football universitaire.
Football universitaire. Bill Belichick, tu te souviens de lui, l'entraîneur des Patriots.
C'est dur de l'oublier.
Il est maintenant Caroline du Nord. 10 millions par année, un contrat de 3 ans.
De 3 ans?
Oui. Tu sais, Lane Kiffin, je te parlais de lui hier parce que je te disais, lui, il quitte l'université Old Mississippi
Mississippi pour s'en aller à LSU. Puis ça devrait mettre Eli Manning, l'ancien carrière des Giants, entraîneur à Old Mississippi.
Eli qui a quitté la NFL et donc il s'en viendrait dans l'universitaire.
Exactement. Ben il y a 12 millions de raisons par année de s'en aller à LSU. Il a signé le contrat le plus lucratif de l'histoire des entraîneurs.
Certains diraient que c'est pas de la petite pinote.
12 millions, non. Et je termine avec Deion Sanders, un ancien joueur vedette dans la NFL qui a joué pour les Falcons d'Atlanta et les Cowboys de Dallas. Lui, il a signé un contrat l'an passé de 5 ans, 54 millions. Son fils, Shedeur Sanders, était son carrière l'an passé. Et là, il est rendu avec les Browns de Cleveland. Mais malheureusement pour Deion Sanders, son équipe a gagné seulement un match sur neuf dans sa division, puis on le paye à peu près 10 millions par année.
Mais écoute, il est là, il est au rendez-vous, que veux-tu?
Et ça, moi, puis les commanditaires sont là, parce que prime time Deion Sanders, comme on l'appelait. Alors, c'était le petit historique argentier de la NCAA, le sport universitaire américain. Il y a de l'argent, pas à peu près, qui se brosse là.
Merci d'avoir accepté la mission. Et aux mauvaises langues qui disent que c'est parce que je me magasine quelqu'un là, de l'autre côté, laissez faire, je vous bloque.
Exactement. C'est déjà tout pour nous. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même avec Denis, Audrey et Véro, notamment Mathias Surcotte qui va revenir sur ce qui se passe au Conseil de Ville de Québec. Et nous, on se dit à demain midi pour l'émission Nageur. Salut Pascal.
Salut.